إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حمل الله إياكم منها فإخوتي في الله وأخوات نواصل بعون الله عز وجل دروسنا في ما يتيسر لنا من كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى مع شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله جل جلاله. قد وصلنا في درسنا الماضي إلى فصل في صفات أهل السنة والجماعة ولما سموا بذلك، فقال المؤلف رحمه الله: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. طيب، إذن قد ذكرنا صفات من صفات أهل السنة والجماعة. الأولى اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. نعم، donc nous sommes arrivés au chapitre intitulé ce qui concerne les caractéristiques des gens de la Sunna et de Al-Jama'a, hein, le groupe sur la vérité, et pour quelles raisons ont-ils été nommés ainsi. Pour quelles raisons ont-ils été nommés ainsi. Voyez. Donc, le Cheikh Fawzan, fadallah ta'ala, a commencé à mentionner certaines caractéristiques justement des gens de la Sunna. D'ailleurs, donc c'est un sujet très important, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on arrive à acquérir toutes ces caractéristiques. Donc la première, ittiba'u athar an-nabi sallallahu alayhi wa sallam batinan wa zahira. La première, le suivi des traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit de manière apparente ou inapparente. Voyez? La deuxième, le suivi de la voie des prédécesseurs, des premiers, parmi les muhajirin et les ansar, donc les émigrés et les ansar, ceux qui les ont accueillis lors de leur migration à Médine. Troisièmement, le suivi de la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le suivi de la sunna de ces quatre califes bien guidés et intègres, qui sont Abu Bakr, wa Omar, wa Uthman, wa Ali. D'accord? Quatrièmement, le fait que les gens de la sunna mettent en priorité le livre d'Allah et la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils fassent prévaloir ces deux sources, hein, vis-à-vis de la parole de qui que ce soit parmi les créatures d'Allah jalla wa ala. طيب اي نعم et on avait aussi expliqué donc la définition de l'innovation el bid'a dans la langue arabe mais surtout dans la religion. اي نعم اذا الصفه الخامسه من صفات اهل السنه الاجتماع على الاخذ بالكتاب والسنه والاتفاق على الحق والتعاون على البر والتقوى وقد اثمر هذا وجود الاجماع والاجماع هو الاصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين وقد عرف الاصوليون الاجماع بانه اتفاق علماء العصر على امر ديني وهو حجة قاطعة يجب العمل به وقوله وهو الأصل الثالث أي بعد الأصلين الأولين وهما الكتاب والسنة. نعم. Donc je rappelle également aussi la raison pour laquelle les gens de la Sunna sont appelés les gens du livre de la Sunna. Donc déjà tout simplement parce que justement ils mettent au premier plan, hein, et au-dessus de toute chose, le livre d'Allah et la sunna de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi on les appelle aussi les gens du groupe de Al-Jama'a? Eh bien parce que Al-Jama'a entraîne l'opposé de la division. C'est-à-dire que le fait de s'attacher et de se cramponner au livre d'Allah et à la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela aboutira à l'union, à la concorde et à l'entente. C'est pour ça qu'on dit El Jama'a, le groupe, les gens de El Jama'a, c'est-à-dire les gens qui sont réunis, regroupés autour de la vérité. Alhamdulillah. Cinquième caractéristique des gens de la Sunna, El Ijtima', justement, l'union. L'union sur le fait de revenir au livre d'Allah et à la sunna. Et la concorde sur la vérité. Ainsi que l'entraide sur le bien et la piété. Vous voyez? Et donc le fait de revenir au livre d'Allah, à la sunna,
le fait d'être unanime et réuni autour de la vérité et de s'entraider sur le bien, la bonté et la piété, cela donne quoi comme résultat? Eh bien, le résultat de tout ça, c'est l'ijma', le consensus. D'accord? Donc, l'ijma', dans le jargon religieux, c'est la troisième source de législation sur laquelle on va revenir et on va s'appuyer dans la science et dans la pratique. Donc, al-usuliyun, les savants des fondements, al-usuliyun, ont défini al-ijma', le consensus, comme étant l'entente. L'entente, l'accord mutuel des savants de l'époque. D'accord? Il y en a les savants d'une même époque. Le fait que tous les savants qui sont aptes à faire un effort de réflexion et qui vivent donc à la même époque sont du même avis sur une question religieuse, eh bien ceci est ce qu'on appelle al-ijma'. Et al-ijma', le consensus, c'est une preuve. C'est une preuve en soi qu'il est obligatoire de suivre et d'appliquer. Et la parole de l'auteur, rahimahullah ta'ala, et c'est le troisième fondement, c'est-à-dire la troisième base, la troisième source, après les deux premières, qui sont le livre d'Allah et la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc la troisième source de législation, c'est al-ijma', le consensus. Taïb. الصفة السادسة من صفات أهل السنة أنهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع يزنون جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين فهم يجعلون هذه الأصول الثلاثة ميزانا لبيان الحق من الباطل والهدى من الضلال فيما يصدر من الناس من تصرفات قولية أو فعلية اعتقادية أو عملية مما له تعلق بالدين أي من أعمال الناس كالصلاة والصيام والحج والزكاة والمعاملات وغيرها أما ما ليس له تعلق بالدين من الأمور العادية والأمور الدنيوية فالأصل فيه الإباحة. Sixième caractéristique des gens de la Sunna, le fait que ils pèsent en utilisant ces trois sources, c'est-à-dire le livre d'Allah, la Sunna et le consensus, al-ijma'. Et qu'est-ce qu'il pèse? Il pèse tout ce sur quoi sont les gens, en termes de parole, en termes d'action, que ce soit des paroles ou des actions apparentes ou inapparentes, et qui a un rapport, bien sûr, avec la religion, qui a un lien avec la religion. Donc, ils vont faire de ces trois sources-là, entre guillemets, une balance sur laquelle ils vont peser les actes et les paroles des gens afin de distinguer entre la vérité et le mensonge, entre al-huda والهدي hein, la bonne voie, la guidée, l'orientation de l'égarement. Et tout ce qui peut provenir des gens comme comportements verbaux ou d'action, comme croyances ou pratiques, parmi les choses qui ont un lien avec la religion, la prière, le jeûne, le pèlerinage, az-zakat, les règles religieuses concernant les affaires terrestres telles que la vente, l'achat, la location, le mu'amalat. Quant à aux choses qui n'ont pas de lien avec la religion, parmi les choses qui sont coutumières ou liées à ce bas monde, eh bien la base c'est la permission. La base c'est la permission, sauf s'il y a une preuve tirée du livre ou de la sunna ou le consensus qui montre que la chose en question est interdite. Mais sinon la base en cela, dans les choses de la dunya, c'est la permission. C'est la licéité. طيب. ثم بين الشيخ رحمه الله تعالى حقيقة الإجماع الذي يجعل أصلا في الاستدلال فقال والإجماع الذي ينضبط أي يجزم بحصوله ووقوعه هو ما كان عليه السلف الصالح لما كانوا قليلين أو نعم لما كانوا قليلين مجتمعين في الحجاز يمكن ضبطهم ومعرفة رأيهم في القضية وبعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة أي بعد السلف الصالح صار الإجماع لا ينضبط لأمرين أولا كثرة الاختلاف بحيث لا يمكن الإحاطة بأقوالهم وثانيا انتشار الأمة في أقطار الأرض بعد الفتوح بحيث لا يمكن عادة بلوغ الحادثة لكل واحد منهم ووقوعه عليها ثم لا يمكن الجزم بأنهم أطبقوا على قول واحد فيها نعم في لشيخ لوتر شيخ الإسلام Rahimahullah ta'ala nous a exposé la réalité du consensus al-ijma' qui a été donc établi comme un des fondements dans la déduction, dans l'argumentation. Et il a dit al-ijma' alladhi yandhabit. Donc c'est pas n'importe quel consensus, c'est le consensus hein, qui est affirmé, confirmé par les normes et les règles, dans la présence certaine et irréfutable. Eh bien, c'est quoi ce ijma? C'est le ijma sur lequel étaient les salaf salih, les pieux prédécesseurs. Vu que les pieux prédécesseurs étaient en petite quantité, étaient peu, leur quantité était, ou leur nombre était, petits. Ils étaient réunis à Nif al-Hijaz, la région qui se trouve en Arabie Saoudite. Et il était facilement déduit que il y avait un consensus des ulama, de la umma à leur époque. On connaissait de façon claire et certaine les avis de tous les ulama de la sunna à ce moment-là, sur une affaire parmi les affaires ou une question parmi les questions qui étaient soulevées. Mais après eux, la divergence ou les divergences ont commencé à se multiplier. Et également, la communauté s'est propagée dans le monde entier. C'est-à-dire que après les salaf salih, les pieux prédécesseurs, eh bien, le consensus ne peut être vérifié. Il ne peut être affirmé de façon certaine pour deux choses, pour deux raisons. La première raison, c'est la multiplication des divergences qui fait que il n'est pas possible de cerner et de connaître les paroles de tous les savants sur terre. Il n'est pas possible de connaître la parole de tous les savants qui sont aptes à faire un effort de réflexion aujourd'hui, par exemple, sur terre. Donc on ne peut prétendre qu'il y a un consensus sur tel ou tel sujet, alors qu'on n'est pas certain de connaître les avis, les paroles de chaque personne. On sera obligé de revenir sur le consensus, mais des salafs salih, des générations précédentes, à l'époque où il était possible d'être certain ou d'affirmer un consensus. Voyez ? الأمر الثاني انتشار الأمة في أقطار الأرض. Deuxième cause, la dispersion, la propagation de la communauté, yani aux quatre coins du globe après les conquêtes, de sorte à ce qu'il n'est pas possible en principe que un événement ou une question soulevée, ou une problématique, parvienne à tous les savants qu'il y a sur terre. Vous voyez ? Ou il n'est pas possible à ce que tous les savants sur terre prennent connaissance d'un événement particulier. Donc, on ne peut pas atteindre la certitude sur le fait que tous les savants aujourd'hui, par exemple, à notre époque, sont unanimes sur un des avis ou sur un avis concernant un sujet déterminé. Voyez ? Rénam. Yaqul al-Sheikh Ibn Harras, rahimahullah ta'ala, fi qawlihi thumma min tariqati ahli sunnah il-akhiri, hada bayanun لمنهج أهل السنة والجماعة في استنباط الأحكام الدينية كلها أصولها وفروعها بعد طريقتهم في مسائل الأصول وهذا المنهج يقوم على هذه الأصول الثلاثة كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وقع عليه الإجماع وما وقع عليه الإجماع وهذا هو المنهج الوسط والصراط المستقيم الذي لا يضل سالكه ولا يشقى من اتبعه هو وسط بين من يتلاعب بالنصوص فيتأول الكتاب وينكر الأحاديث الصحيحة ولا يعبأ بإجماع السلف وبين من يخبط خط عشواء فيتقبل كل رأي ويأخذ بكل قول لا يفرق في ذلك بين غث وسمين وبين الصحيح والسقيم. Il dit le Cheikh Ibn Harras, رحمه الله تعالى, par rapport à la parole du Cheikh, ensuite parmi les méthodologies des gens de la sunna, la voie des gens de la sunna, etc. Ceci est un exposé du menhaj. Il dit, là, on a parlé du menhaj, de la voie, de la méthodologie des gens de la sunna et du groupe sur la vérité, dans le sujet de la déduction, de l'extraction des règles religieuses, de toutes les règles religieuses, le licite, l'illicite, le recommandé, le détestable, le permis. Que ce soit les fondements des règles religieuses ou les branches qui viennent après les fondements, bien sûr. Donc ce menhaj, المنهج السلفي المنهج السلفي prend sa source dans trois choses. Le livre d'Allah, la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ce sur quoi il y a un consensus chez les ulama qui sont aptes à faire un effort de réflexion. Et ceci est le manhaj du juste milieu. Al-manhaj al-wasat. Et le droit chemin, sirat al-mustaqim. Et celui qui prend ce chemin-là, il ne s'égarera jamais. Et celui qui le suit ce chemin, ce manhaj, il sera jamais malheureux, wallahi. C'est le juste milieu entre deux extrêmes. Entre ceux, d'un côté, qui vont jouer et s'amuser avec les textes, qui vont interpréter le livre d'Allah Jalla wa'ala selon leur passion, et qui vont refuser les hadiths authentiques, wal'iyadu billah, et ceux qui vont se moquer du consensus des salafs. Et de l'autre côté, à l'autre extrême, on a ceux qui vont yani prendre les paroles sans science, de manière aléatoire. Ils vont accepter tous les avis, ils vont les accepter, les yeux fermés, sans réfléchir, sans revenir aux preuves, sans se renseigner sur quelle personne a émis telle ou telle fatwa, ou telle parole. Ils vont prendre toutes les paroles qui viennent à eux. Du moment où la personne porte un qamis, une barbe, ils vont prendre la parole. Du moment où la personne monte sur un mimbar, ça y est, c'est un alim, c'est un savant. Donc ils ne font pas la différence entre, comme dit les cheikh, entre une chose qui est maigre et une chose qui est grasse. Ils n'arrivent pas à faire la différence. Entre une chose qui est en bonne santé et une chose qui est malade. Donc Ahlus Sunnah, ils sont au juste milieu entre ces deux extrêmes. Et ils reviennent au livre d'Allah, à la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et la troisième source, Al-Ijma', le consensus. Ils ne sont fanatiques à aucune créature. Et ils croient que le seul qui est infaillible dans la transmission de la révélation, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les humains. Et là, ce sont les prophètes et les messagers. Ils ne sont donc fanatiques pour aucune autre personne. Même si elle a atteint un degré immense de science. وهكذا. ثم يقول الشيخ الفوزان رضا الله تعالى تنبيه إنما اقتصر الشيخ رحمه الله على ذكر الأصول الثلاثة ولم يذكر الأصل الرابع وهو القياس لأن القياس مختلف فيه كما اختلفوا في أصول أخرى مرجعها كتب الأصول. Ici il attire notre attention, le Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, sur un point qui est que l'auteur Cheikh Islam, il a mentionné que trois sources. Il a mentionné donc le livre d'Allah, la Sunna et le consensus. Mais il faut savoir qu'il n'a pas mentionné une quatrième, qui est l'analogie, Al-Qiyas. Al-Qiyas al-Sahih, l'analogie authentique. D'ailleurs, donc beaucoup de ulama mentionnent cette quatrième source qui est Al-Qiyas. Al-Qiyas, c'est رد واقعة غير منصوص عليها إلى واقعة منصوص عليها إلى واقعة منصوص عليها لاتفاقهما في العلة وبالتالي الحكم. Et qu'est-ce que c'est le qiyas? Hein? C'est le fait de ramener une question sur laquelle il n'y a pas de texte explicite, de la ramener vers une autre question sur laquelle il y a un texte explicite. Car ces deux questions-là se rejoignent autour d'une même cause. Et par conséquent, ils se rejoignent également autour du même jugement. Voyez ? Non, ça c'est l'analogie. Donc il n'a pas cité parce que, dit le cheikh, les savants ont divergé sur cette source de législation qui est l'analogie, hein, comme ils ont divergé sur les d'autres sources encore, telles que les paroles des sahaba et autres. Et donc cette problématique, elle est soulevée notamment dans les livres de fondement. Non. بحمد الله عز وجل ننتقل إلى الفصل التالي في بيان مكملات العقيدة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي يتحلى بها أهل السنة. يقول المؤلف رحمه الله: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجب الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضها بعضا وشبك بين أصابعي، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. يقول شيخنا الفوزان رضا الله: هذا الفصل كالمتمم للفصل الذي قبله، فيه بيان لصفات أهل السنة التي هي من مكملات العقيدة، فقوله ثم هم أي أهل السنة مع هذه الأصول أي التي مر ذكرها، أي مع قيامهم بها علما وعملا يتحلون بصفات هي من مكملاتها وثمراتها، فهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كما وصفهم الله جل وعلا بذلك في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والمعروف هو اسم جامع لكل ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح، والمنكر اسم جامع لكل ما يكرهه الله جل وعلا وينهى عنه. Donc, on passe au chapitre suivant intitulé ou qui concerne l'exposé des choses qui vont venir compléter la croyance, qui vont venir des choses qui vont parfaire la croyance de la personne parmi les bonnes mœurs, les bons comportements et les bonnes actions que les gens de la sunna doivent posséder. Vous voyez? Donc il dit le cheikh al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, ce chapitre-là, il vient compléter le chapitre précédent. Il vient compléter le chapitre précédent, exposant les caractéristiques des gens de la sunna. Donc on en a vu plusieurs, hein. Vous voyez, dans le chapitre précédent, ce chapitre-là, il vient le compléter. Il dit il vient compléter la croyance. Hein? Donc il dit l'auteur, ensuite, il, c'est-à-dire les gens de la sunna, en plus de ses fondements, donc les fondements qu'on a vus dans le chapitre précédent, voyez, après le fait qu'ils aient appris ces fondements-là qu'on a vus et qu'ils les aient mis en pratique, ils doivent se parer de certaines autres caractéristiques qui vont venir parfaire et compléter leur croyance. Vous voyez ? Et qui font partie des fruits, en vérité, des fruits de cette croyance. Donc, qu'est-ce que c'est que les fruits de cette croyance-là ? Eh bien, premièrement, le fait qu'ils ordonnent le convenable et qu'ils interdisent le blâmable. Ils ordonnent le convenable et ils interdisent le blâmable. Comme Allah Jalla wa Ala les a qualifiés dans sa parole, dans le sens rapproché, vous êtes la meilleure des communautés qu'on ait fait sortir aux gens. Vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable. Donc le convenable, al-ma'ruf, ou qu'est-ce que c'est que le ma'ruf? Il dit le shaykh, hafidhahullah, c'est un nom qui inclut tout ce que Allah Jalla wa Ala il aime comme la foi et les bonnes actions. Al-ma'rufu, c'est un nom commun qui inclut tout ce que Allah Jalla wa Ala aime parmi la foi, al-iman et les bonnes actions. Alors que le blâmable, al-munkar, c'est un nom qui inclut tout ce que Allah Jalla wa Ala il déteste. Al-munkar, un nom commun incluant tout ce qu'Allah Jalla wa Ala il déteste. Non. Et il interdit. D'accord? Donc, al-ma'ruf, un nom incluant tout ce qu'Allah il aime, comme la foi, les bonnes actions, et al-munkar, tout ce qu'Allah Jalla wa Ala, il déteste, et tout ce qu'il a interdit. ثم يقول قوله رحمه الله على ما توجبه الشريعة أي باليد ثم باللسان ثم بالقلب تبعا للقدرة والمصلحة خلافا للمعتزلة الذين يخالفون ما توجبه الشريعة في هذا فيرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج عن الأئمة. Puis il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, ils ordonnent le bien, ils interdisent le mal, le blâmable, conformément à ce que la charia, la législation, a commandé ou a imposé. Conformément, c'est-à-dire selon la méthode que la charia nous a imposée. C'est quoi cette méthode-là ? Eh bien, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal avec la main, physiquement. Si on en est capable. Et si on est apte à le faire. Et si on fait partie des gens qui peuvent le faire. Sinon, avec la langue, de façon verbale. Et si on ne peut pas le faire de façon verbale, avec le cœur. D'accord? Avec la main. Sinon, avec la langue. Sinon, avec al-qalb, le cœur, en fonction de la capacité et de la maslaha. Hein? Et de la maslaha, c'est-à-dire de la probabilité en termes de bénéfices et de profit. Ça, c'est la méthodologie des gens de la sunna, dans l'ordonnance du convenable et l'interdiction du blâmable. Ce n'est pas la voix des Mu'tazila qui ont contredit, hein, le groupe égaré des Mu'tazila, qui ont contredit ce que la charia leur a ordonné de faire dans l'ordonnance du bien, l'interdiction du mal, car chez eux, parmi leurs égarements et leurs déviances, ils pensent que ordonner le convenable et interdire le blâmable t'autorise, par exemple, à te révolter contre les gouverneurs. Hein? Ils disent que le fait de sortir contre le gouverneur, de se révolter contre lui, de se soulever contre le dirigeant, eh bien, c'est une forme d'interdiction du mal et d'ordonner le bien. La, laysa hakada. Voyez? Donc, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, c'est limité par des règles précises, des normes que nous a apprises le prophète sallallahu alayhi wa sallam. طيب وقوله ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا أي يعتقد أهل سنة وجوب إقامة هذه شعائر مع ولاة أمور المسلمين أبرارا كانوا أو فجارا أي سواء كانوا صالحين مستقيمين أو فساقا فسقا لا يخرجهم عن الملة. Il dit l'auteur رحمه الله تعالى, les gens de la sunna sont d'avis que on doive établir ou pratiquer le pèlerinage, la lutte dans le sentier d'Allah, les Jumu'ah, les Ayyad, c'est-à-dire les Eid, Eid al-Fitr, Eid al-Adha, avec les dirigeants. Que ces dirigeants-là soient des gens pieux ou des désobéissants. Regardez ici, c'est très important. Les gens de la Sunna ont la croyance qu'il est obligatoire d'appliquer tous ces rites religieux avec les dirigeants des musulmans, qu'ils soient des gens pieux ou des désobéissants, qu'ils soient vertueux, pieux, sur le droit chemin, intègres, droits, ou bien désobéissants, d'une désobéissance qui ne fait pas sortir, bien sûr, de la religion. واضح؟ وذلك لأن غرض المسلمين من ذلك هو جمع الكلمة والابتعاد عن الفرقة والخلاف ولأن الوالي الفاسق لا ينعزل بنفسه ولا لا ينعزل عفوا بفسقه ولا يجوز الخروج عليه لما يترتب على ذلك من ضياع الحقوق وإراقة الدماء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أكثر من الفساد الذي Et ceci, car l'objectif des musulmans en cela, eh bien c'est l'union. C'est l'union, la concorde, et l'éloignement de la division et de la divergence, et des conflits. Car premièrement, il faut savoir que le dirigeant, même s'il est fasq, même s'il est désobéissant, ce n'est pas le seul. Hein? Ce n'est pas le seul à l'être. Il n'est pas isolé dans sa désobéissance. Mais tu trouveras parmi le peuple des gens qui désobéissent aussi à Allah Jalla wa Ala. Et par rapport au fait donc qu'il n'est pas permis de sortir et de se révolter contre lui. Car cela n'engendre que le non-respect des droits. et l'effusion de sang. Comme l'a dit Cheikh Islam, rahimahullah ta'ala, il se peut qu'il n'existe pas un seul groupe qui est sorti contre l'autorité, c'est-à-dire le gouvernement, les dirigeants, sans que les troubles qui ont résulté de cette révolte soient plus graves que ceux qu'il y avait avant la révolte. Il dit le cheikh, l'islam, il se peut qu'il n'y ait pas un groupe, qu'il n'existe pas un groupe qui est sorti se révoltant contre le gouverneur sans que le désordre qui a été engendré par cette révolte n'ait été plus grave encore que le désordre qu'il y avait avant la révolte. C'est-à-dire que cela n'a fait qu'empirer les choses. فأهل السنة يخالفون في ذلك أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والشيعة الذين يرون قتال الولاة والخروج عليهم إذا فعلوا ما هو ظلم أو ظنوه ظلما ويرون ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Donc les gens de la Sunna, ils sont différents ceux-là des innovateurs tels que le Khawarij, ou le Mu'tazila, ou les chiites, les Shia, qui voient, eux, qu'il est permis de combattre les gouverneurs, et de se révolter, de sortir les armes contre eux, de manifester dans la rue, avec des slogans anti-gouvernement, contre eux. Hein? Lorsque ces gouverneurs commettent une forme d'injustice, selon eux, ou de ce qu'ils pensent être une injustice, selon eux. Et ils considèrent cela même comme une ordonnance du convenable et une interdiction du blâmable. Alors que c'est tout le contraire. وقوله ويحافظون على الجماعات أي ومن صفات أهل السنة أنهم يحافظون على حضور الصلاة الفريضة مع الجماعة جمعة أو غيرها. لأن ذلك من أعظم شعائر الإسلام وطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك خلافا للشيعة الذين لا يرون الصلاة إلا مع الإمام المعصوم وخلافا للمنافقين الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة وقد وردت أحاديث في فضل صلاة الجماعة والأمر بها والنهي عن تركها ليس هذا موضع ذكرها. نعم. Puis il dit, Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, et les gens de la Sunna, ils préservent leur jama'at, c'est-à-dire leur prière en groupe à la mosquée. Parmi les caractéristiques, donc, des gens de la Sunna, c'est qu'ils sauvegardent cette la présence lors des prières obligatoires en groupe. Que ce soit la prière du vendredi ou autre. Car cela fait partie des plus grands rites religieux de l'islam et des plus grandes obéissances d'Allah Jalla wa Ala et de son messager, alayhi salatu wa salam. Contrairement aux shi'a, aux chiites, qui voient que la prière est obligatoire que derrière ce qu'ils appellent eux un imam infaillible, imam in ma'soum, qui ne peut pas se tromper ou oublier. Vous voyez? Donc ces gens-là prétendent qu'il y a des êtres humains qui sont infaillibles. Donc ils les mettent même au-dessus des prophètes et des messagers. Car le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il se peut qu'il oublie des choses. Taïeb. Et ces gens-là prétendent qu'il y a des humains qui ne peuvent pas se tromper, qui ne peuvent pas oublier, et c'est que derrière cela qu'il est obligatoire de prier. Na'oudhu billah. Et là, je voudrais attirer l'attention de tous les frères qui ont le livre du Sharh, donc qu'on est en train de lire. Dar al-Mirath al-Nabawi, il y a certaines erreurs, donc essayez de corriger en même temps, inshallah ta'ala, notamment ici en arabe, il dit dans la parole par rapport au Shia, alladhina la yarawna as-salah ma'a al-imam al-ma'soum. Donc ils disent exactement le contraire de ce que le Sheikh a dit. D'accord? Ils disent que les Shia, ils ne prient pas derrière un imam infaillible. Alors que c'est tout le contraire. Les Shia, voyez, ils prient que derrière un imam infaillible. Donc ils ont oublié d'imprimer le terme illa. Illa ma'al imam al ma'soum. Ce qui change tout. Et également dans la parole de Sheikh l'Islam tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, mais ils ont oublié également le terme al-fasad, hein, et ils ont écrit fi izalatihi au lieu de alladhi azalathu. Donc la bonne parole c'est corrigée pour ceux qui ont le livre. Wa la'allahu la yakadu yu'rafu ta'ifatun kharajat ala fi sultanin illa wa kana fi khurujiha min al-fasadi akthara min al-fasadi alladhi azalathu. On revient par rapport à la prière en groupe, contrairement également aux hypocrites qui ne prient pas la prière en groupe. D'accord? Donc, alhamdoulilah, il y a plusieurs hadiths mentionnant le mérite de la prière en groupe et le fait qu'elle est obligatoire et qu'il est interdit de la délaisser, mais cela n'est bien sûr, cela n'est pas le sujet de notre cours. أي نعم فبحمد الله عز وجل نكتفي بهذا القدر والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما والله أعلم بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.